Bonjour, et bien nous nous retrouvons avec Elisabeth pour poursuivre notre réflexion, et aujourd'hui c'est sur le péché originel. Alors, le premier nom qui vient à l'esprit quand on parle du péché originel, c'est saint Augustin qui a élaboré la notion. Et les tentatives pour, depuis, s'approprier cette notion ont été variées, en tout cas d'une époque à l'autre. On parle toujours de péché originel, et à l'époque moderne, lorsque la science a mis au jour le darwinisme, l'évolution, on a essayé quelquefois de trouver des liens entre le péché originel et puis la science. Il y a bien eu aussi un pont lancé par Teilhard de Chardin, mais globalement, c'est assez raté, ce qui fait que le péché originel est une notion laissée un peu de côté, un peu oubliée, ou bien présentée comme un récit poétique. Et pourtant, il est intéressant de se poser la question, puisque le péché versus mal, le péché étant la notion religieuse, le mal étant la notion pratique de tout le monde, existe, et que le mal n'est pas seulement les images de la télé, mais bien une réalité. D'où l'intérêt de réfléchir sur cette démarche. Alors, le père Sesboué, dont nous utilisons l'ouvrage, je rappelle, L'homme merveille de Dieu, c'est édité chez Salvatore et c'est bien intéressant. Je ferme la parenthèse. Se propose de clarifier cette notion dans une démarche, dit-il, constructive et libérante. De clarifier aussi la notion psychologique entre fausse et vraie culpabilité pour retrouver la responsabilité des hommes. Et il propose une démarche après avoir vu que, en remontant la série des pourquoi, la question se pose toujours. Donc, une démarche en trois temps, la réalité du mal, l'approche chrétienne et comment se représenter le péché originel aujourd'hui. Alors d'abord, la réalité du mal.
Oui, le père Sesboué nous dit que le mal, c'est ce qu'on appelle communément l'univers de la faute. Et que pour l'instant, on peut peut-être garder ce terme de faute qui est plus universel, plus commun. Et la première forme de cette faute, de ce mal, c'est une forme de division. Et plusieurs formes de division. La division entre l'homme et la nature. C'est la mort dont on parlait la dernière fois. La mort absurde, la mort scandaleuse.
Et puis aussi des mots. Bon, mais on vient de voir récemment, tremblement de terre en Italie, une avalanche. Donc là, des forces anonymes. Est-ce dû à l'homme? On ne sait pas. Quelquefois, on voit la neige qui se constitue autour des cristaux de pollution. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a quelques défauts qui sont dus aux retombées négatives du travail de l'homme sur son environnement. Donc, division homme-nature, mais aussi
bon, bien
d'autres
sûr,
divisions.
D'autres divisions, bien sûr, la division des hommes entre eux.
Et voilà, ça.
Là, c'est omniprésent. Alors, ça se trouve dans tout les aspects de la vie des hommes, la famille, qui est le lieu d'une relation privilégiée, mais aussi, quelquefois, le lieu des divisions, de la violence. Il y a aussi le travail, la vie économique, avec l'exploitation de l'homme par l'homme.
Le politique.
Le politique, avec les divisions très fortes que ça entraîne.
Et dans certains cas, des asservissements, que ça s'appelle colonisation, ou bien camp de travail, ou bien relégation, ou bien si tu n'adhères pas à mon idéologie, je t'enferme.
Oui.
Et puis ensuite, chacun fait l'expérience de nos divisions intérieures.
Oui, parce que chacun est divisé. Et saint Paul le disait déjà, entre le bon et le mauvais, je fais ce que je ne voudrais pas et je ne fais pas ce que je voudrais. C'est quelque chose qui est un désordre interne.
Alors là, ce sont les divisions, donc. Mais il y a aussi la séparation de l'absolu, c'est-à-dire le rejet de ce lien à l'absolu dont on a déjà parlé.
Oui, et tout ça amène à la question
de l'insignifiance.
De l'insignifiance. On est dans une société où le sens n'apparaît pas de façon évidente. Et la dernière fois, on parlait des 1000 ans de vie. À quoi ça servirait s'il n'y a aucun sens?
Voilà. Et puis, c'est vrai que dans nos sociétés qui ont, pour une part, Régler les problèmes de nourriture, de logement et de loisirs, eh bien, c'est le caprice, l'arbitraire, la mode. C'est en fait des choses qui n'ont pas beaucoup de sens eu égard à la réalité profonde de l'existence. Donc, on voit là qu'il y a le mal, mais aussi dans la culture.
Oui, alors ça semble un petit peu étonnant comme réflexion, mais la culture, c'est aussi un lieu de solidarité pour le mal, parce que toute culture porte des préjugés, des contre-valeurs qu'elle va véhiculer et transmettre de
et
génération.
Chaque culture centrée sur elle-même, le nationalisme, par exemple, moi d'abord, si vous voyez tout de suite ce que ça donne, si on dit les Français d'abord et puis en face les Allemands d'abord, eh bien ça a donné 50 ans de guerre. Donc on voit bien que la culture peut porter aussi au mal.
Et dans la culture, il y a aussi le langage. Le langage qui peut être mensonge et transmettre ses contre-vérités.
Appelé dans le langage moderne les post-vérités, c'est-à-dire en fait on érige le mensonge en système et on considère que ce sont des post-vérités. Alors là on devient même menteur sur le fait d'appeler quelque chose de mensonge. On n'ose plus parler de mensonge. C'est fort.
Oui.
Bon, donc le langage. Et puis il y a une certaine solidarité dans le mal.
Oui, parce que toute l'humanité est marquée par ce mal. Chaque personne, dès son éveil à la vie sociale, est marquée par ce mal, et ce mal est transmis de génération en génération.
Donc, on voit qu'il y a une vraie réalité du mal, et après la pause musicale, nous allons passer à l'autre version, la révélation chrétienne.
Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier.
L'approche chrétienne, c'est-à-dire comment interpréter cette situation mélangée, bien mal, depuis le manichéisme dans lequel saint Augustin lui-même s'était promené, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on appelle interprétation pessimiste ou optimiste. Alors, des approches diverses, mais d'une manière très optimiste, nous dit le père Sesbouet. Le mal s'expliquerait par le simple fait de la finitude créée.
Oui, ça serait simplement un temps nécessaire à l'humanisation. Et ça permettrait d'expliquer cette omniprésence du mal.
Voilà. Alors, sauf que quand le mal s'appelle les secondes guerres mondiales, se pose la question, elle a été posée d'ailleurs, Dieu après Auschwitz.
Oui, c'est l'idée que on ne peut plus penser un Dieu bon créateur après Auschwitz. Et Dieu serait un Dieu insensible, et donc il n'y aurait pas de sens du monde à chercher.
Et pourtant, alors ça c'est du côté de l'ethnologie, Lévi-Strauss nous dit, je cite, « Où l'homme est dans la signification, c'est la solution religieuse, où la signification est dans l'homme, c'est la solution athée. » Et comme chrétiens, nous penchons pour la signification religieuse, d'où l'expression religieuse du péché.
Oui, alors le péché, ce n'est pas simplement la faute, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un échec, mais, nous dit le père Sesbouet, le péché, c'est un déni de ce qu'est l'homme fondamentalement, c'est-à-dire l'homme qui est fait pour Dieu.
Est fait pour être en relation avec les autres.
Oui.
Donc, tous nos manques dans les relations avec les autres sont relus comme étant des manques vis-à-vis de Dieu qui nous demande justement d'aimer les autres. Donc,
oui,
cet homme radicalement pécheur tous ces péchés, finalement, sont contre Dieu.
Oui, c'est ce que dit le psaume 50. « Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. »
Alors Paul a repris cela et il nous dit qu'il y a une double radicalisation du péché. Il concerne Dieu, il n'est pas simplement un grand collectif, et il concerne chacun de nous du fait de notre appartenance à l'humanité. Et puis chacun de nous par notre responsabilité personnelle. Bien sûr. Ça va de soi, mais ça va mieux en le disant.
Et oui, et le péché originel, cette affirmation chrétienne du péché originel, c'est cette désorientation de l'homme par rapport à Dieu, et c'est un désordre du désir de l'homme. Et c'est ça qu'on appelle l'état de péché, et qui est différent de l'acte de péché. C'est ça que ça signifie, le péché originel.
Voilà, un état fondamental qui est d'emblée.
Qui est d'emblée et qui se traduit par des actes.
Ce qui va nous amener à un troisième temps, c'est cette origine de la condition pécheresse des hommes, événement de la liberté humaine, qui nous amène à réhabiliter d'une certaine manière le dogme du péché originel.
Oui, parce que c'est la responsabilité solidaire de la liberté des hommes dans le mal qui se manifeste. Et la question, c'est pourquoi est-ce que l'humanité se retrouve toujours dans cet état blessé ? Est-ce que c'est un fait de la création ? Mais ça ne peut pas être attribué à Dieu.
Oui, parce qu'effectivement, Dieu bon, impossible oui. de créer. Alors, la cause revient, encore une fois, à la liberté des hommes. Et c'est ce que veut nous dire ce récit de la chute d'Adam et Ève, sous la forme de cette histoire.
Oui, parce que c'est quelque chose qui est difficile, qui est très difficile à expliquer. Et le récit nous permet d'entrer, de comprendre ce qui a pu se passer à l'origine.
Oui, parce que c'est absolument irreprésentable, le monde à l'origine, c'est-à-dire avec un homme tout bon et en bonne relation avec Dieu, et puisque finalement, ça n'est pas la réalité. Donc, difficile de se représenter quelque chose qui est totalement irréel. Donc, pour raconter l'histoire, pour rendre compte de cette situation, l'histoire racontée, qui doit être située au commencement de l'humanité, puisque la situation est universelle, et successivement, on voit comment, dans la Bible, le péché se reproduit
de
génération en génération, puisque à chaque fois, le peuple s'éloigne, Dieu va le récupérer, envoie un prophète, etc. Avec la forme, peut-être, on peut s'y attarder, de la tour de Babel. Là, c'est vraiment les hommes ensemble essaient de conquérir le ciel, c'est-à-dire de créer un monde à l'égal de Dieu, voire sans Dieu.
Oui, et ça reprend bien cette idée que le contenu du péché, c'est le refus de la situation d'être créé et le désir de devenir Dieu à la place de Dieu.
Bon, on en a des exemples quotidiens dans ce qui nous entoure, dans la vie sociale, dans la vie tout court. Ce qui amène, puisqu'il y a péché originel, il y a nécessité. Et c'est ça qui paraît intéressant, c'est parce qu'il y a péché, et un péché qui, de génération en génération, se poursuit. Ce n'est pas par héritage, mais c'est une réalité, et ce qui amène l'exigence d'un sauveur.
Oui, parce que la solidarité dans le péché nous renvoie tout de suite à la solidarité du salut dans la personne du Christ.
Eh bien, c'est ce que nous aborderons dans la troisième partie de cet ensemble d'émissions, l'annonce chrétienne du salut. Et à tous, je dis bonne semaine à tous. Au revoir.